pouvez vous asseoir. Hier soir, nous avons parlé du thème de la destinée. Nous voulons ce matin parler du thème de l'identité. Nous avons plusieurs messages que nous partageons au cours de ce séminaire. Mais je voudrais vous présenter ce thème sous un autre angle ce matin. Je voudrais élever Jésus-Christ au-delà de tous les hommes ce matin. Je voudrais nous amener vers les besoins de Jésus en nous décentrant ce matin de nos propres besoins. Tout d'abord, je voudrais vous dire que Dieu s'y prend de plusieurs manières pour nous bénir et il ne faut pas le limiter. Et pendant que vous êtes là, moi je pars du principe que chacun de nous, moi le premier, même je suis un orateur, nous sommes appelés à repartir avec quelque chose. Quelque chose que le diable n'est pas supposé nous voler. Quelque chose qui va changer la suite de notre vie. De réunion en réunion, on est supposé tous devenir meilleurs, d'accord? J'en ai assez de ces gens qui assistent sans arrêt à des réunions qui deviennent pires. L'idée, c'est de devenir meilleur. Vous êtes partant pour devenir meilleur? On sait tous que par nos propres forces, on ne peut pas. Mais la Bible dit, tout est possible, hein, celui qui croit. Et Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre d'accomplir ce que nous ne pouvons accomplir par nos propres forces. Mais lorsque Dieu nous touche, comme Dieu n'est pas limité, puis il sait que nous avons des personnalités différentes, nous avons un passé différent, il nous touche de diverses manières, sous diverses formes, à diverses périodes. Il peut nous toucher lorsqu'on s'avance et qu'on nous impose les mains. Il peut nous toucher lorsqu'on s'avance et qu'on est loin d'huile. Il peut nous toucher lorsqu'on ne s'avance pas aussi, lorsqu'on est tout simplement sur sa chaise, parce qu'il y a la puissance de la parole. Jésus chassait les démons par sa parole. Il peut nous toucher parce qu'on commande à un démon de sortir de ta vie. Et puis, ce n'est pas toujours obligé pour que les démons sortent de leur commander ou de faire du bruit, de s'exciter inutilement. Avec la femme syrophénicienne, Jésus lui a déclaré, « Voici le démon, il est sorti de ta fille. » Dieu n'est pas limité. Donc ne soyons pas pour une méthode contre une autre, parce que tout ça c'est le Seigneur. Pour certains, vous pouvez rentrer dans un lieu comme celui-ci et avoir besoin d'être délivré, avoir besoin d'être guéri, et vous ressortez, vous êtes délivré, guéri. Pour d'autres, ça peut se faire dans les heures qui suivent la réunion. Je me rappelle ce jeune homme chez nous qui était venu, il n'arrivait plus à dormir parce qu'il avait affaire à une puissance de ténèbres, et... On a prié dans le salon et on a commandé cet esprit de le lâcher. Il a semblé à vue humaine que rien ne se passait. Lorsqu'il est rentré chez lui, 2 heures plus tard, il s'est assis sur le lit, comme tous les soirs, il s'apprêtait à ne pas dormir. Et là, il a été projeté du lit contre la porte. Un esprit est sorti de lui. Et il a dormi comme un bébé cette nuit-là. Le lendemain, lui qui n'arrivait pas à tenir un seul boulot, il a trouvé un super boulot. Par la suite, dans l'église, peut-être la semaine d'après, il a trouvé une épouse. Et ensuite, il est devenu pasteur. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et si nous avions limité le Seigneur en disant, tiens, on a prié, il ne s'est rien passé. La Bible nous dit que nous sommes appelés à ne pas marcher par la vue, mais par ce que nous croyons. On est d'accord? Pour certains, on aura besoin tout simplement de saisir une parole. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et je serai guéri. Moi, je suis ce genre de personne. J'entends une parole, ça me suffit. Je suis dans une réunion, il y avait une prophétie, il n'y en a pas pour moi, je ne fais pas une crise. Parce que ma vie, elle n'est pas bâtie sur les prophéties. Je suis heureux pour les autres qui reçoivent des prophéties. Mais moi, ça ne change rien à ma vie spirituelle. Parce que ma vie, elle n'est pas bâtie sur les prophéties. Il y a les gens qui font une crise s'ils n'ont pas eu leur prophétie. Et là, pour certains, ils auront besoin de passer par un programme de relation d'aide, peut-être sur plusieurs mois, et c'est bien aussi. Et tout ça, c'est Dieu, parce que je tiens à vous dire que Dieu vous aime, et s'il ne peut pas vous attraper d'une manière, il va essayer de vous attraper d'une autre. Il ne va pas vous laisser tomber comme cela. Dis-le à ton voisin, Dieu ne va pas te laisser tomber comme ça. D'accord? Alors soyez ouverts à toutes ces formes, à toutes ces manières. Quand vous sortez, ne dites pas, voilà, la réunion est terminée, donc c'est fini, je suis passé à côté de ma chance. Non ! La parole de Dieu, elle ne revient pas au Seigneur si elle trouve la foi, bien sûr, sans produire d'effet. Donc elle va continuer son travail à l'extérieur de la tente, dans les heures qui suivent, dans les semaines qui suivent ce qui s'est passé sous la tente. Amen ? D'ailleurs, beaucoup de gens parfois reçoivent sous la tente ou dans la salle et ils perdent dès qu'ils sortent. Alors éventuellement, autant avoir l'impression de rien recevoir pendant qu'on y est et recevoir après. Quelque chose qui va demeurer. Amen. Donc dans les temps dans lesquels nous entrons, ce n'est pas le moment de faire marche arrière, les amis. C'est le moment de se propulser en avant. Et ce n'est pas le moment de rester découragé, affaiblis et blessés dans nos cœurs. Nous avons tous des passés qui nous ont blessés. Maintenant, il faut nous concentrer sur notre futur avec Jésus, afin de pouvoir être utilisé, si je peux dire, à plein rendement dans la paix qu'il a placée sur notre vie. Ce n'est pas le moment d'entretenir ses blessures, c'est le moment de s'en débarrasser. Et ça, je vais vous dire une chose, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est notre responsabilité. On ne veut pas faire partie de tous ces vieux chrétiens blessés qui traînent ces blessures pendant des années, qui en veulent à tout le monde, n'est-ce pas? Alors quelqu'un dira, est-ce que ce n'est pas un état normal? Est-ce qu'il ne serait pas normal, plus on a d'années de conversion, bien plus on a eu d'occasion d'être blessé? Donc c'est logique qu'on soit plus blessé. Non, parce que plus on a d'années de conversion, plus on est supposé devenir mature. Donc le nouveau converti qui soit blessé facilement, c'est normal parce qu'il ne sait pas encore comment se défendre. C'est un bébé, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'être entouré. Mais si j'ai un certain nombre d'années de conversion, je suis supposé marcher dans une autre dimension. Et je pourrais dire, on ne me blesse pas comme ça. Qu'est-ce qu'il nous est dit de Dieu? Il est plein de miséricorde. Et le juste, il est supposé être rempli à l'image de son Dieu de miséricorde. La miséricorde, c'est la faculté qui nous permet de pardonner facilement. Donc plus on a d'années de conversion, plus normalement, si on suit le schéma normal bibliquement, plus ça doit devenir facile de pardonner. Hello? Logique? Parce que ce qui importe dans notre vie, ce sont les choix que nous faisons. C'est comment nous choisissons de réagir aux réactions. On ne va pas être bien en essayant de se débarrasser de tous les gens qui risquent de nous offenser. Il faudrait se débarrasser de son propre conjoint alors. Ok? Dans la vie, tout dépend des choix qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il est jusqu'à aller à dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement du mal de vous à cause de moi. » En d'autres termes, lorsqu'il y aura des occasions pour que vous soyez blessés. Il nous dit en d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de réagir négativement, vous pouvez tirer de cela un sujet d'édification, être heureux. Ça me rappelle les disciples, comme des petits enfants là, ils avaient été battus de verge et ils revenaient tout contents d'avoir été battus de verge. Combien de chrétiens qui râlent pour n'importe quoi? Il nous faut rentrer de plus en plus dans une nouvelle dimension. Amen. Alors, je crois que le problème n'est donc pas qu'on a été blessé, mais parfois qu'on n'est pas assez mature pour gérer les contrariétés. Donc, peut-être que notre attention, pour nous affirmer dans notre identité, ne doit pas être de se concentrer sur « Je suis venu aujourd'hui, frère païen, il faut à tout prix que je sois guéri !» Oui, c'est bien, c'est important, Dieu le veut, mais ce matin, ce qu'on veut avant de mettre l'accent sur toi et sur moi, c'est mettre l'accent sur lui, sur le guérisseur. Donc, il est important de ne pas toujours essayer d'être guéri, d'être obsédé par être béni, mais d'avoir pour but prioritaire de devenir mature en Jésus-Christ. Parce que quand on devient mature en Jésus-Christ, la guérison est une conséquence logique, la délivrance est une conséquence logique. Est-ce que vous me suivez? Bibliquement, on obtient rarement la bénédiction lorsqu'on la recherche comme priorité. Mes amis, je vous encourage aujourd'hui plus que jamais, au lieu de chercher la bénédiction, même si Dieu la veut pour vous, mais en priorité de chercher le Dieu de la bénédiction. Avant de chercher la guérison, de chercher le Dieu qui est guéri, à mieux le connaître. Avant de chercher la prospérité, je prêche la prospérité et je crois que Dieu nous veut chacun prospère parce que c'est un Père digne de ce nom. Mieux connaître le Dieu de la prospérité. Et pour cela, il nous faut nous détourner de nous, de nos besoins, et avoir nos yeux de plus en plus centrés sur lui. Alors que j'étais en train de méditer à une époque sur toutes les blessures qu'on peut recevoir dans l'Église, et j'étais expert pour cela, sur les gens qui ne savent plus comment en être guéris, sur mes propres expériences douloureuses dans ce domaine, le Saint-Esprit il a soufflé à mes oreilles cette question. D'ailleurs, vous savez que le Saint-Esprit parle. On est supposé avoir une discussion avec lui, recevoir des réponses aux questions qu'on se pose. Et le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille cette question, est-ce que tu es blessé ou un guéri? Alors sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai dit, tu peux répéter la question, Seigneur? Suis-je un blessé ou un guéri? Qu'est-ce que ça signifie, Seigneur? La Bible nous montre que ce... Hello? La Bible, ouais. Ne bougez plus, on coupera au montage. Hein. Voilà. Comment ? Oui, je vais venir. La Bible nous montre que ce qui définit notre vie, et spécialement notre futur, ce n'est pas tant ce qui nous arrive ou nous est arrivé, ce sont les choix que l'on fait face à ce qui nous arrive. Vous savez que nous avons un merveilleux pouvoir les uns les autres. Vous connaissez ce pouvoir ? Non, non, ce n'est pas le Saint-Esprit, bien sûr que c'est le Saint-Esprit, une fois qu'on est né de nouveau. Mais avant cela, ce qui permet au Saint-Esprit d'agir, et d'ailleurs selon comment on l'oriente, ce qui peut permettre au diable d'agir, c'est notre volonté. Dieu ne viole pas notre volonté. Vous avez vu les efforts que le diable fait pour qu'on soit le moins conscient possible. Il veut nous faire boire, nous faire nous droguer, pour que notre volonté soit annihilée le plus possible. Parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir dans la volonté. C'est le pouvoir du choix. Comment est-ce qu'on est sauvé ? Lorsqu'on fait choix d'accepter Christ comme son sauveur. Et quoi qu'il a été pourvu pour l'humanité entière, tous les gens ne pourront bénéficier de ce salut qui a été prévu pour eux, parce que tous ne font pas le choix de l'accepter. Vous êtes d'accord ? Donc vous imaginez quel est le pouvoir de la volonté ? Face à une blessure, face aux choses désagréables qui arrive dans la vie, je peux faire le choix de demeurer un blessé ou de devenir un guéri. Amen. L'autre jour, je prêchais ce message et je citais l'exemple de ma belle-mère. Ma belle-mère, lorsqu'elle avait 16 ans, elle se retrouvait, elle était à l'école en Suisse. Et lorsque sa maman est venue la trouver en vacances, elle qui avait déjà perdu donc son père, ma belle-mère, sa maman est venue la trouver pour passer des vacances avec elle et se réjouir. Elle a attrapé une espèce de grippe très mauvaise et elle en est morte. Donc là, en vacances, elle a perdu sa maman, elle avait déjà perdu son papa. Par la suite, elle a perdu son frère, qu'elle aimait parce qu'il lui restait plus que son frère, qu'elle aimait de tout son cœur. Mais vous savez quel a été son raisonnement ? Eh bien, puisque j'ai plus de père, j'ai plus de mère, Dieu sera mon père. Combien de gens qui lèvent le poing vers le ciel ? Vous voyez, on n'est pas obligé de réagir négativement. Bien sûr qu'on est tous tentés de réagir négativement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas responsable d'avoir été blessé par les autres. Ce n'est pas notre faute. Et on doit reconnaître notre statut de victime. Mais là où nous avons notre responsabilité, c'est vis-à-vis des choix que nous avons faits face aux agressions qui sont venues de l'extérieur sur notre vie. Alléluia ! Est-ce que nous voulons devenir de plus en plus, et je crois que c'est un message pour l'Église aujourd'hui, des chrétiens qui acceptent leur responsabilité personnelle ? Alors je crois que parfois on essaie de faire se repentir les gens pour des choses auxquelles ils n'ont pas à se repentir. Ok ? La femme, elle a été maltraitée, abusée par son mari pendant des années. Aujourd'hui, elle est libre, il a quitté. Et souvent, on lui fait encore porter le poids de la culpabilité, alors que ce n'est pas elle qui est fautive. Et on va lui interdire de se remarier et d'être heureuse. On va la faire se sentir au milieu de nous, parfois comme une chrétienne de seconde qualité, pendant que lui, il se fait dorer la pilule à Hawaï avec sa maîtresse. Donc, il ne faut pas accuser les gens des choses qu'ils n'ont pas faites. Est-ce que vous me suivez ? Parfois, on va les faire se repentir de choses dont il ne faut pas qu'ils se repentent. Nous devons reconnaître aux gens qui ont été blessés et abusés leur statut de victime. C'est très important pour être guéri. Est-ce que vous me suivez ? Donc, quand quelqu'un a été blessé, tu dois pleurer avec lui, tu dois prier avec lui et reconnaître, amen, qu'il a été agressé, que c'est une victime et qu'il a besoin de la guérison de Christ. Maintenant, pour cette personne, comme pour toutes les autres personnes, il y a une repentance quand même qui doit rentrer en ligne de compte, car la repentance, c'est la porte qui nous ouvre le royaume de Dieu et qui nous ouvre à la délivrance et à la guérison. C'est la réaction qu'on a eue face à toutes ces choses-là. Est-ce que vous me suivez ? Pour cela, il va nous falloir choisir entre entretenir sa condition de blessé ou développer sa condition de guéri. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 2000 ans, Christ a porté nos souffrances. Il s'est chargé de mes infirmités et de mes maladies. Et s'il s'est chargé des miennes, il s'est chargé des vôtres aussi.
Amen.
On va lire Ésaïe 53, 4. Nous connaissons tous ces passages, mais c'est bien de les lire à la voix haute. Le diable n'aime pas qu'on lise la parole de Dieu et qu'on la proclame. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé, mais les miennes, ça nous concerne tous. Ésaïe 53, 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Un chrétien doit connaître la paix. La paix est son droit, la paix doit être son partage. Amen. Et chaque fois que la paix s'échappe, eh bien, il a le droit de la récupérer. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures, et je vais y revenir là tout à l'heure, c'est par, répétez après moi, ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow. Une fois que j'ai pris connaissance de ces vérités que déclare la parole de Dieu et que je les crois bien sûr, eh bien je peux commencer, même si c'est un processus progressif, je peux commencer à ne plus raisonner en blessé, mais à raisonner en guéri. Demande à ton voisin, tu es blessé ou tu es guéri? Est-ce qu'on va laisser parler la vieille nature qui a été blessée ou la nouvelle nature qui a été guérie en Jésus-Christ? Le roi ou la reine, rappelez-vous? Le fou ou la folle? Vous avez parlé au roi hier soir? Les gens mariés là? Vous allez parler à la reine? Ça marche?
Oui.
Donc nous sommes appelés à discipliner nos émotions ainsi que nos paroles. La vie chrétienne consiste, et la sanctification entre autres, à discipliner de plus en plus ses émotions et ses paroles. Vous savez, un blessé ne raisonne ni ne parle comme un guéri. Et si, ayant été guéri par Jésus-Christ, je continue à raisonner et parler comme un blessé, je ne rentrerai jamais dans le concret de ma situation de guéri. Nous voulons marcher sur les traces de Jésus, qui, rejeté, humilié, blessé, meurtri, abandonné, a pardonné à ses persécuteurs. Et même tous ses copains, permettez-moi l'expression, ils l'ont abandonné. Alors moi j'imagine, lorsqu'il est ressuscité, qu'il est arrivé dans la pièce, là, il a traversé les murs, il avait un corps glorieux. Oh, ils ont dû dire, aïe, 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 c'est le moment de passer à la caisse. On va régler les comptes maintenant. Thomas qui voulait à tout prix voir pour croire les trous dans ses mains, lui, il a dû dire, bon, moi je vais être le premier à prendre, je vais aux toilettes. Et qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Il leur dit pas, hey, les amis, ça fait 3 ans et demi que je vous explique tout ce qui doit se passer. On passe presque 24 heures sur 24 ensemble. Et au moment où on vient me chercher, vous partez tous. C'est avec ça que je vais bâtir mon église. Donc il leur dit que la paix, par ces meurtrissures, nous avons droit à la paix. Que la paix soit avec vous. Alors peut-être que tu es venu sous cette tente et tu croules sous le fardeau de la culpabilité. Inscris-toi à l'atelier d'Alain. Je voudrais te dire que Dieu, il n'est pas là pour te faire des reproches. Il est là pour te dire que la paix soit avec toi. Amen. Amen. Accepte ta responsabilité. Ne la fuis pas. Mais Dieu, il bénit celui qui accepte sa responsabilité. Il n'accuse pas. Il le lave par son sang. Amen. Amen. Et lui communique sa paix. Nous voulons marcher sur les traces de Joseph qui a eu toutes les raisons d'être méga blessé, mais qui, en tout surmonté, s'est retrouvé un jour à consoler ses frères qui ont été la cause de ses malheurs. Ce sont ses frères qui l'ont vendu et c'est lui qui devient un instrument de guérison pour ceux qui l'ont vendu. Ah, bien sûr qu'il a été tenté au dernier moment de régler les comptes. Et nous sommes tous tentés de faire les mauvais choix face à ce que nous font les gens. Hello? Mais il a fait le bon choix. Et c'est justement parce qu'il ne s'est pas laissé aigrir qu'il est devenu... Il a été placé à un poste très élevé. Si tu veux être béni, il y a quelque chose qu'il faut que tu éjectes de ta vie, c'est le non-pardon. Ce sont les blessures causées par ce que les autres y t'ont fait. Hello? Être plein de miséricorde. Dans un couple, il faut se pardonner facilement. Il faut que l'autre, à un moment donné, n'ait même plus à nous demander pardon. Quand il le veut, on lui dit, c'est déjà réglé, t'inquiète. Hello? Il y a quelqu'un ce matin? En d'autres termes, il faut abattre, ça peut paraître un peu fort ce que je dis, mais comprenez, il faut abattre de plus en plus le culte de l'homme. Si nous voulons que Dieu prenne de plus en plus de place, il nous faut abattre de plus en plus le culte de l'homme au milieu de nous. Qu'est-ce que le culte de l'homme? C'est quand tout tourne autour de l'homme au lieu de tourner autour de Christ. On vient à l'église pour voir ce qu'on va recevoir, on vient à l'église pour voir ce qu'on va sentir, on vient à l'église pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre, on vient à l'église pour parler de soi. Il faut que notre problème devienne le centre de toute l'église. Alors là, on est en train d'ériger le culte de l'homme pour remplacer le culte de Dieu. On ne prie que dans le sens de « Donne-moi Seigneur, bénis-moi, moi, ma femme, ma grand-mère, mes enfants, mon chien !» Mon poisson rouge. Vous avez remarqué que les gens qui ont toujours les mêmes problèmes sont des gens qui sont toujours en train de parler d'eux. Et en étant concentrés sur eux, ils s'enlisent dans leurs problèmes parce qu'inconsciemment, je ne dis pas que c'est toujours conscient, ils adorent l'homme, ils s'adorent eux-mêmes au lieu d'adorer Christ. Alors je voudrais vous dire que la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. J'espère que vous n'êtes pas venu pour Claude et Julia Payan. Vous êtes venu pour Christ, amen. Même si Dieu utilise des hommes, il utilise des femmes, il utilise Michael Réal, Alain Sanzé, mais nous venons pour Christ. C'est Christ que nous voulons entendre. C'est Christ que nous voulons toucher du doigt. C'est dans sa présence que nous voulons grandir en maturité. Adoration va avec attention. C'est celui qui reçoit le plus notre attention qui reçoit notre adoration. Une autre parole que le Seigneur m'a donnée, parce que Dieu est un Dieu qui parle, et je vous encourage de plus en plus à se mettre à l'écoute de son esprit, qui veut vous diriger dans toute la vérité qui vous concerne. Un jour, le Seigneur m'a dit que je n'étais pas guéri par mes meurtrissures, mais par ses meurtrissures. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait me faire comprendre que plus je me concentrais sur mes meurtrissures, moins je serais guéri. Et d'ailleurs, plus mes meurtrissures allaient grandir. Vous avez vu les adolescents, là, qui, quand ils se concentrent sur le bouton qu'ils ont sur le nez? Il y a des ados, hein? Ouais. Ils sont là devant la glace et on leur dit « Arrête de le presser, ça ne va rien arranger !» Et il ressort de la salle de bain, il a une ampoule sur le nez. Ils ont l'impression qu'on ne voit que ça. Et pour essayer de s'en débarrasser, ils font empirer la situation. Parce qu'ils se concentrent sur leurs meurtrissures. Là où nous sommes supposés se concentrer sur ces meurtrissures, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que vous réalisez? Amen. Il y a un principe spirituel à réaliser ici, et écoutez-moi bien, on priera pour les malades tout à l'heure, qui est source de guérison pour les malades. Car par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais en me concentrant sur mes meurtrissures au lieu de ces meurtrissures, je peux m'empêcher de recevoir la guérison qui est dans ces meurtrissures. Hébreux 12.3, Paul nous dit « Considérez en effet ». Donc on est supposé prendre en considération, penser à, ressasser celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, afin que notre âme soit nourrie et ne soit pas battue, ne s'affaiblisse pas, mais soit fortifiée. Nous sommes supposés considérer ce que Christ a souffert au lieu de trop considérer ce que nous avons souffert. Imaginez ce par quoi est passé Jésus, les amis. Et je prêche à la croix ce matin. Vous savez, parfois, le message qui est bon en soi, s'y prend trop d'importance par rapport à la croix, message de guérison, message de délivrance, message de prospérité, il va nous cacher la croix. Alors, dans n'importe quel message doit être derrière la croix. Parce qu'il émane, son efficacité, sa puissance émane de la croix. Et d'ailleurs, on n'est pas supposé rester à la croix non plus. Devant la croix, il faut encore qu'il y ait la résurrection. Alléluia. Parce qu'il est dit dans l'Écriture que Dieu veut transformer nos vies par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit, d'entre les morts. Wouh! Donc ce n'est pas le message de la prospérité, de la guérison, de la délivrance qui vient en premier. C'est le message de la croix et de la résurrection qui nous donne le pouvoir de prêcher ces messages et de voir des résultats. Tu te sens rejeté? Tu souffres? Considère Jésus. Ésaïe 53:3 nous dit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Non seulement il était dans la souffrance, mais il était rejeté. Et les gens défilaient devant sa croix en disant: regardez ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Comme un vulgaire malfaiteur, humiliation, rejet, moquerie. Psaume 22, 6, 7, c'est l'Esprit de Jésus qui parle et il dit: « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Et tu râles parce qu'on se paye de ta tête? C'est pas si grave lorsque tu considères ce que Jésus a souffert. Chaque fois que vous êtes tenté de vous apitoyer sur vous, considérez ce que Jésus a souffert. Peut-être que tu faisais la cuisine, tu coupais les carottes, et oh, tu t'es coupé! Et tu es là, tu dis: Dieu m'abandonne, Dieu ne m'aime pas, je le savais! Il bénit les autres, pas moi! Écoute, tu prends le DVD de Mel Gibson sur la passion, là tu t'en passes une demi-heure, ok? Tu vas voir, tu vas avoir beaucoup moins mal après. Pourquoi? Parce que tes meurtrissures vont être englouties dans ces meurtrissures. Et alors que je prêchais cela à Annecy, un frère m'a dit: mais je peux témoigner que ce que vous dites c'est vrai, car je suis allé voir au cinéma le film de la passion et j'avais un mal de tête, mon cou était coincé, je pensais plus du tout à moi, j'étais tellement dans ce film en train de voir souffrir mon sauveur, mais quand je suis ressorti, mon cou était guéri. C'est la confirmation de ce que je suis en train de prêcher. Plus parfois on s'occupe de soi, moins on va avoir des résultats. D'accord? Vous comprenez le message ce matin?
Oui.
Pour s'affermir dans notre identité, parfois, il ne faut pas passer trop de temps devant la glace pour se transformer. Hello? Juste ce qu'il faut. Mais par contre, passons du temps dans sa présence. Passons du temps à contempler le visage de Jésus, à apprendre à comprendre qui il est et quelles sont ses voies. La parole de Dieu nous a été donnée en priorité pour nous révéler le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on le connaisse. Il veut avoir une relation avec nous. Comment avoir une bonne relation avec une personne si on ne la connaît pas? Comment avoir une bonne relation avec son conjoint si on n'a jamais découvert le roi ou la reine? Vous savez, la souffrance que cause un problème est réelle et je ne suis pas là pour la nier ce matin. Mais elle sera toujours relativisée dans notre cerveau par rapport à un problème plus important. Aussi dur qu'aient été nos souffrances, parce que nous fonctionnons ainsi. C'est comme ça, quelqu'un qui a perdu un enfant, c'est terrible, mais sa souffrance va être relativisée lorsqu'il rencontre quelqu'un qui a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Est-ce que vous comprenez? Il va sentir une nouvelle force qu'il n'avait pas avant pour être au service de ces gens qui ont encore plus souffert que lui. Nos souffrances ne doivent pas nous empêcher de servir Dieu. Et ne doivent pas nous empêcher de nous mettre au service des autres qui ont plus souffert que nous. Et c'est dans cette marche que Dieu nous guérira nous-mêmes. Amen.
Amen.
Quelqu'un de centré sur soi va souffrir plus que les autres, parce que sa souffrance n'est pas relativisée par celle des autres. Nous voulons nous oublier ce matin, vous êtes d'accord? Et avoir nos yeux sur Jésus. Si nous sommes ici ce matin, si nous pouvons louer le Seigneur, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. C'est parce qu'il a souffert pour chacun de nous. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement un principe, le royaume de Dieu. Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu veux avoir les yeux fixés sur ton problème ou sur ce que Jésus a souffert ce matin? Et quand on priera pour toi tout à l'heure, c'est vrai, on va prier pour ton problème, mais tu vas l'oublier. Tu vas venir avec les yeux sur Jésus. L'ensemble des meurtrissures qu'a reçues Jésus lui avait été causé pas l'ensemble, une bonne partie, par le fouet des Romains. Et il semble que ça formait une grande plaie béante dans son dos. Parce que, en fait, dans l'hébreu, il n'est pas dit « par ses meurtrissures nous sommes guéris », mais « par sa meurtrissure nous sommes guéris ». Et pourtant, il a eu plusieurs meurtrissures à cause du fouet des Romains. Et quelqu'un versé dans l'hébreu et qui prêche justement la guérison divine a fait remarquer que ce qui a dû se passer, c'est que Jésus a été tellement frappé que toutes ces meurtrissures qu'il avait dans le dos se rejoignaient toutes à un moment donné et ne formaient qu'une grosse plaie béante. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Vous savez, les Romains, ils utilisaient des fouets garnis de boules de métal qui lacéraient les chairs. Ils n'avaient pas, comme les Hébreux, des lois qui leur disaient d'arrêter le châtiment après un certain nombre de coups. Une fois qu'une personne avait été fouettée avant sa crucifixion, elle se trouvait dans un état piteux. Elle avait souvent les dents toutes cassées, le nez écrasé, le visage tout enflé. Et c'est ce qui nous est dit dans Ésaïe 52:14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Tu te sens rejeté, incompris, faible, moche? Arrête de t'occuper de toi ce matin. Considère les souffrances de Jésus-Christ. Car c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Vous avez vu que ce message, il n'intéresse pas tout le monde. Il intéresse les gens qui veulent vraiment comprendre qui est le Jésus vivant. Tu souffres dans ton corps? Tu as mal au dos, aux dents, au cœur, partout? Considère les souffrances de Christ ce matin, car c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Paul parle même dans Philippiens 3:10 de connaître, encore connaître, cette expression que j'aime bien, la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas que Dieu veut me bénir, ce n'est pas utiliser le Saint-Esprit comme un distributeur automatique. J'appuie sur le bouton rouge, je suis béni. J'appuie sur le bouton bleu, il me donne une femme. J'appuie sur le bouton vert, il remplit mon compte en banque. Non. Il y a une part où Dieu veut nous bénir parce qu'il est un Père digne de ce nom. Mais il y a toute une part où il nous faut participer à ses souffrances. Nous avons besoin de redécouvrir l'esprit de sacrifice dans les églises évangéliques. Oui, lorsque les personnes étaient passées à l'époque de Jésus par le fouet, elles étaient dans un tel état que leur corps n'était que douleur et inflammation. La croix devenait presque une délivrance. Donc lorsque nous considérons ce que Jésus a souffert et ce que Jésus a ressenti, ça va prendre le pas sur nos propres souffrances. Vous savez, c'est comme lorsque vous avez un mal de dents. Vous avez mal ailleurs, mais quand vous avez un mal de dents, toutes les autres souffrances, elles disparaissent. Parce que votre attention, elle est concentrée sur notre mal. Et c'est le même principe. Lorsqu'on concentre notre attention sur les meurtrissures, je peux avoir le micro un peu plus fort dans le retour, sur les meurtrissures de Christ, eh bien au bout d'un moment, nos meurtrissures vont devenir tellement secondaires. Et dans ce temps où elles sont secondaires, un matin, comme pour moi lorsque j'ai été guéri de mon dos, on va se lever, on va dire « Waouh, ça a disparu !» Ça vous est jamais arrivé d'être béni comme ça? Vous avez insisté, vous êtes lamenté, vous avez boudé Dieu même. Je sais, j'étais expert à une époque, mais ça ne marche pas. Et rien n'y a fait. Et vous vous oubliez pendant quelque temps et vous dites, je vais apprendre à connaître le Seigneur, à tout faire pour lui plaire, parce que je marche avec lui de manière inconditionnelle. Et un matin, vous vous levez, et ce que vous avez attendu depuis des mois, voire des années, bien vous l'avez d'une manière la plus simple possible. Hello! Il a pris notre place et a payé le prix même de l'abandon qui est la part de l'âme perdue. Tu as été abandonné, Christ a payé le prix de l'abandon. Et parce qu'il a pris notre place, il a payé le prix de l'abandon de la part du Père. C'est pour qu'on ne soit plus abandonné. Alors chaque fois que je me sens abandonné, je prends en considération qu'il a porté mon abandon. Quel plus grand abandon que d'être abandonné par Dieu lui-même. Vous me suivez ce matin? Psaume 22:15, l'Esprit de Jésus parle, là aussi, prophétiquement. « Ma force se dessèche comme à l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » car les chiens m'environnent. Nous aussi, Seigneur. Une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, et je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Aucun de nous n'a vécu tout ça, nous sommes bien d'accord ? On peut relativiser nos souffrances. Tu as le cœur en morceaux, considère ce qu'a souffert Jésus. Tu sais comment Jésus est mort exactement ? Ce n'est pas des causes directes de la crucifixion, puisque lorsque les Romains sont venus pour lui briser les jambes, comme aux deux autres brigands qui l'entouraient, il était déjà mort et il avait remis son esprit au Père. D'après le psaume 22, Jésus est mort le cœur brisé. Un médecin a étudié ce qui s'est passé avec la crucifixion de Christ et il dit que les termes du psaume 22 font comprendre que le cœur de Jésus a lâché sous le poids de ses souffrances morales. Et d'ailleurs, le psaume 22, verset 14 nous dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Son cœur a pris tant de coups, tant d'injustices qu'il a été brisé. Jésus est mort, le cœur brisé, c'est pour que mon cœur à moi il soit guéri. Chaque fois que j'ai envie de retourner à l'apitoiement sur moi, à ce que les gens m'ont fait ou m'ont pas fait, je considère le cœur brisé de Jésus. Alléluia. Et d'un coup, je me sens bien. Et la joie du Seigneur est ma force. Il est question que ce soit le message de la croix, je termine par là, dans la Bible, qui libère la puissance. C'est pourquoi, à travers tous nos messages, il faut toujours revenir à la croix. 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. D'accord ? Ils n'ont pas trop envie d'écouter ce message. Ils ont plutôt envie de partir en courant. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Des tas de gens ne supportent pas ce message. Ils veulent que des messages, Dieu veut te bénir, Dieu te faire du bien, Dieu veut remplir ton compte en banque, Dieu va te guérir. Oui ! Mais avant tout, nous voulons apprendre à mieux connaître qui est ce Dieu. Tout message découle de ce qui s'est passé à la croix. Galates 6,14. Pour ce qui me concerne, dit Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. À la croix, Christ s'est chargé de tes infirmités, de tes maladies, tant physiquement que moralement. Ce sont tes souffrances, mes souffrances qu'il a portées, et j'insiste, c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Regardons ces meurtrissures et oublions les nôtres. Considère ces souffrances, oublie les tiennes. Et dans cette attitude, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. À Sevrier, lorsque je suis arrivé le premier soir, j'ai reçu que le lendemain, lorsque j'allais prêcher, je sentais le Saint-Esprit, il disait « Tu vas prier pour les gens qui souffrent de dépression. » Et j'ai donné l'exemple d'une personne pour qui nous avions prié, qui était tombée par terre, et lorsqu'elle s'est relevée, elle est sortie de 5 années de dépression. Donc les gens se sont avancés, avec plusieurs serviteurs de Dieu, on a prié pour eux. Et dans les témoignages qui ont été donnés à la fin du camp, il y a celui d'un gars qui s'est avancé ce soir-là. Et il a dit « Ce soir-là, il y a 30 années de dépression qui sont parties de mes épaules. » Hello? C'est pas Claude Payan qui peut faire ça, hein? Jésus. Amen? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui, nos cœurs vers lui, lui donner la première place? On va l'adorer quelques instants. Et après, on va s'occuper de nous, oui, on a le droit. Mais dans cette ambiance seulement, avec lui qui est la première place. On va lui dire, Seigneur, je suis là, pas parce que, avant tout, je veux être guéri, même si je veux être guéri. Je suis là, pas parce qu'avant tout, j'ai besoin que tu payes mon loyer à la fin du mois, même si j'ai envie. Mais avant tout, je suis là pour toi. Et même tu ne me guérirais pas et tu ne pourrais pas mon loyer, mais je te servirai quand même.
Alléluia.
Amen. 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 Alléluia. Père, nous t'adorons ce matin, adorez le Seigneur. Vous pouvez lever les mains vers lui, fermer les yeux, chacun comme vous le sentez, garder les yeux ouverts, mais juste une attitude d'adoration. Nous voulons mieux te connaître. Tu as dit que tu es venu faire connaître le Père. Nous voulons de plus en plus comprendre et connaître le cœur du Père. Tu as dit que son cœur est plein de miséricorde. Nous voulons être remplis de cette miséricorde. Nous ne voulons pas être connus comme des gens rancuniers, comme des gens susceptibles. Nous voulons être connus comme des gens qui pardonnent facilement. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons ressortir meilleurs à cause de ta parole qui a été annoncée ce matin. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous proclamons devant les dominations, devant les autorités, amen, devant les anges, devant les hommes, les femmes qui sont là, présents, devant le monde physique et le monde spirituel, que Jésus est Seigneur, établi par Dieu le Père. Il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nous voulons proclamer que son sang précieux nous lave et nous purifie. Nous voulons proclamer que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous apportons notre passé, nous apportons notre présent. Nous apportons nos émotions, nous apportons notre personnalité, nous apportons notre identité. Pour que ce soit toi qui façonne tout cela. Merci pour le sang précieux dont nous invoquons la puissance ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous te disons, Père, fais-nous mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement.